Mesdames et messieurs, vous avez devant vous trois tableaux. Ces tableaux constituent la matière de l'entreprise où je voudrais vous engager ce soir et vous entraîner au cours des conférences suivantes. Et c'est également une matière symbolique de cette entreprise, car ça n'en est pas la totalité matérielle. Ces trois tableaux sont les suivants. D'abord ici, vous avez les 22 lettres de l'alphabet hébreu, avec leur nom hébreu écrit en caractère latin. Et en face de chaque lettre, vous avez un ou plusieurs concepts correspondant à chacune de ces lettres. D'autre part, vous avez ici un deuxième tableau qui contient le premier verset, le premier chapitre de la Genèse, écrit en caractère hébraïque. Enfin, un troisième tableau qui se trouve ici, de gauche à droite, et que je mentionne simplement pour mémoire, il est destiné aux non-hébraïsants ou aux non-encore hébraïsants, puisqu'il s'agit de la translittération des caractères hébreux et également l'indication de la prononciation différente de certaines lettres selon qu'elles contiennent un point central ou non contiennent point, et également l'indication de la forme différente de certaines lettres selon qu'elles se trouvent au début, au milieu ou bien à la fin d'un mot. Nous aurons tout loisir durant ces entretiens de revenir sur cet alphabet hébreu, puisque, je vous le disais, c'est la matière et la matière symbolique de notre entreprise. C'en est la matière, car effectivement, il va bien s'agir de déchiffrer, pour commencer, le premier verset du premier chapitre de la Genèse et de le déchiffrer en utilisant les idées, les concepts correspondantes à chacune des lettres. C'est-à-dire que nous considérerons en quelque sorte ce premier verset du premier chapitre de la Genèse comme une énigme dont il faut connaître le mot. Et le mot de l'énigme, eh bien, se trouve sur ce premier tableau que je vous ai indiqué, c'est-à-dire la table de correspondance entre les lettres et un certain nombre d'idées, de concepts. C'est une matière symbolique, vous disais-je, car en effet, les idées correspondant à chacune des 22 lettres de l'alphabet hébreu sont plus nombreuses que je ne les ai indiquées ici. Il y a certains raffinements qui n'ont pas pu prendre place sur ce tableau et que nous aurons à prendre en compte lors de nos analyses. Et d'autre part, il est bien évident que le premier verset du premier chapitre de la Genèse n'est pas le seul que nous aurons à déchiffrer. En fait, il s'agit, du moins nous commencerons, et je ne sais pas où nous nous arrêterons, il s'agit des 10 premiers chapitres de la Genèse. Des 10 premiers chapitres de la Genèse dont nous essaierons de découvrir l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est-à-dire un sens caché, qui ne contredit pas le sens reçu, le sens banal, le sens littéral, mais qui est complémentaire, et d'ailleurs supérieur, de ce sens littéral. C'est un sens métaphysique, c'est un sens plus profond, en un mot, c'est un sens ésotérique. Et ce qui va nous occuper, c'est précisément l'ésotérisme de la Genèse. Que veut dire ésotérisme de la Genèse, cette expression que nous avons donnée pour titre à cette série de conférences? Eh bien, ésotérisme de la Genèse veut dire d'une part que nous allons essayer de pénétrer en profondeur dans la Genèse, et quand je dis dans la Genèse, il s'agit essentiellement des 10 premiers chapitres, et que cette pénétration en profondeur, acte ésotérique à proprement parler, nous permettra de découvrir un enseignement qui est l'ésotérisme, c'est-à-dire une doctrine que l'on trouve commune à la Genèse et aux livres sacrés des autres traditions que l'on trouve dans la totalité des cultures, pourvu qu'on les envisage sous l'aspect du sacré. Cet ésotérisme de la Genèse, que nous essaierons donc de découvrir à l'aide de ce tableau qui est le résumé, qui est l'abrégé de la méthode à utiliser, nous le rechercherons selon le docteur Auguste-Édouard Chauvet. Vous me permettrez d'écrire ce nom. Permettrai-je d'écrire ce nom, puisque c'est celui du chercheur, de l'auteur, sur les traces duquel nous allons nous engager. Mon but sera de vous faire découvrir la découverte du docteur Auguste-Édouard Chauvet. Je ne vous parlerai pas ou seulement par allusion, dans la mesure où la pensée de Chauvet l'exigera, de l'ésotérisme en dehors de sa pensée, de la Genèse en dehors de l'étude qu'il en a faite, et je ne vous parlerai pas non plus, sinon pour les mêmes raisons, des méthodes antérieures à la sienne ou parallèles à la sienne qui se sont efforcées de dégager l'ésotérisme de la Genèse. La fille du docteur Chauvet, Madame Odette Villard, me racontait qu'un astrologue, au vu de l'horoscope du docteur Chauvet, lui avait déclaré, et cet horoscope, j'espère que nous aurons l'occasion de le regarder d'un peu près un jour, cet astrologue donc, au vu de l'horoscope du docteur Chauvet, déclara « il a trouvé une clé ». C'est également ma conviction, et cette clé, je voudrais vous l'attendre. Je voudrais vous montrer comment le docteur Chauvet a reconstitué une cryptographie sacrée, comment il a retrouvé la valeur secrète des lettres hébraïques, comment il a rétabli le sens vrai des mots qu'elles composent, comment il a lu en profondeur, ésotériquement, le texte ouvert de la Genèse, comment il en a, vous disais-je, dégagé l'ésotérisme. Et comment cet ésotérisme dégagé apparaît bien comme une somme enfin retrouvée, enfin proposée, de l'antique et primitive tradition judéo-chrétienne, dont on pourrait dire qu'elle équivaut à la tradition, avec un grand T, pour s'exprimer à la manière des ésotéristes, si l'on ne risquait ainsi de trahir quelque peu la pensée du docteur Édouard Chauvet, puisque la tradition judéo-chrétienne, sous sa forme antique et primitive, est pour lui la perfection de la tradition avec un grand T. C'est cette tradition complète, cette tradition sans aucune mutilation. Vous tendre cette clé, donc, et vous faire partager cette découverte, est pour moi un privilège, c'est un honneur, et c'est une joie, car je pense que la découverte de Chauvet est une découverte merveilleuse. Il y a sans aucun doute, lui-même l'admettait, et l'un de ses disciples dont je vous parlerai tout à l'heure l'admettait aussi, il y a sans aucun doute des erreurs de détail, davantage encore d'inexactitudes, mais je crois que dans son ensemble, cette découverte est véritablement à admirer, à utiliser, et qu'on peut, grâce à elle, approcher de richesses insoupçonnées et dont l'usage est des plus profitables. Sur les invitations que vous avez peut-être vues, je n'ai pas résisté au plaisir de reproduire les lettres d'un des rares connaisseurs et amateurs de l'œuvre de Chauvet, qui s'appelait Charles Laxener, qui publia quelques ouvrages et quelques articles sous le pseudonyme Notre Ami. Et ce texte est le suivant, vous l'avez lu, vous me permettrez de vous le relire, et d'y souscrire.
Je considère que tout porteur d'une semblable clé, celle que je voudrais vous tendre, se doit d'être à même de pouvoir pénétrer au-delà des causes, des principes, des puissances, des concepts, des idéations, des archétypes, des pensées. En un mot, être capable de sonder la grandeur, la hauteur, la profondeur des choses de Dieu. Le travail auquel je vous convie n'est pas un travail facile, mais je puis vous assurer que l'enjeu en vaut la peine. Nous étudierons donc, la prochaine fois, si vous le voulez bien, le graphisme ésotérique. C'est-à-dire ce qu'est de manière très exacte l'alphabet hébreu, selon Chauvet, et comment la compréhension de la nature de l'alphabet hébreu permet de déchiffrer, ainsi que je vous le disais, les textes écrits dans cette langue. Avant cependant d'étudier ce graphisme ésotérique et de commencer une étude de détail, j'aimerais vous rappeler qui était Auguste-Édouard Chauvet. J'aimerais vous le rappeler pour plusieurs raisons. D'abord, je crois important de vous dire en quel lieu il se situe et de nous situer avec lui dans ce lieu afin de prendre sa perspective où il définit ce qu'est l'ésotérisme, ce qu'est la Genèse et ce qu'est le déchiffrement ésotérique de la Genèse. Je pense que c'est aussi une justice que de présenter la personnalité d'un savant dont nous allons essayer d'apprendre les principales leçons. Vous verrez qu'en corrélation de l'intérêt intellectuel, avec des retombées spirituelles, que l'on peut prendre à la découverte de Chauvet, la connaissance de sa personnalité n'est pas non plus sans nous toucher et sans nous instruire. Et puis, j'ajouterai, mais vous vous en rendrez compte, que la connaissance du docteur Chauvet est aussi une manière d'approcher sous un angle quelque peu nouveau l'histoire de l'occultisme aux alentours de 1900, puisque c'est à cette époque-là que le docteur Chauvet entra dans la carrière, en quelque sorte, de l'ésotérisme, et que cette histoire, sans Chauvet et sans les relations qu'il entretint avec un certain nombre d'occultistes de l'époque, serait incomplète. On parle parfois dans l'université de cours de recherche, par opposition à des cours de simple exposition de données déjà bien connues. Je voudrais risquer ce néologisme de conférence ou d'exposé de recherche, car beaucoup plus qu'un cours magistral ou qu'une simple répétition de ce que vous pourriez trouver dans quelques ouvrages, que d'ailleurs je puis vous indiquer si vous le souhaitez, j'aimerais chercher avec vous à pénétrer l'ésotérisme de la Genèse et aujourd'hui, j'aimerais chercher avec vous à mieux connaître le docteur Auguste-Édouard Chauvet. Ça n'est pas une simple formule de rhétorique que de vous parler de recherche à ce propos, car j'ai eu le bonheur de trouver tout récemment un matériau nouveau. Et ce matériau, je vous propose de le considérer ensemble, ces dossiers, je vous propose de les dépouiller ensemble. Auguste-Édouard Chauvet, je vous donne tout de suite quelques indications d'événements pour poser un cadre tout à fait sommaire. Auguste-Édouard Chauvet est né le 22 juin 1863 à l'Île-Dieu. Son père était capitaine au long cours. Il fut élevé principalement par sa mère, qui était une femme très religieuse. Et il entra au petit séminaire des Couets, près de Paimboeuf, sa famille ayant quelque espoir de lui voir embrasser l'état sacerdotal. Lorsqu'il parvint en première, il s'aperçut qu'il n'avait pas la vocation et il se dirigea vers la carrière médicale. Il fit sa médecine à Paris, passa sa thèse à Paris sur un sujet sans aucun rapport avec ceux qui devaient être l'objet de ses études. Et puis, il vint à Nantes, et pendant toute son existence, qui fut longue, puisqu'il mourut en 1946 seulement, pendant toute son existence, sauf au cours des dernières années, il exerça la médecine à Nantes. Il occupa des postes de responsabilité, même de haute responsabilité, dans des organisations professionnelles et également fut médecin de certaines administrations. Il se maria, il eut trois enfants, dont l'aîné mourut, et ce fut l'un des plus gros chagrins de sa vie en 1937. Il eut un autre fils qui fut médecin comme lui, le docteur Jean Chauvet, qui, grâce à Dieu, est toujours de ce monde, et une fille, Odette, qui est aujourd'hui également, grâce à Dieu, de ce monde, et qui est Madame Villard. Ce fut donc un médecin praticien. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur les événements, je dirais, extérieurs ou profanes de la vie du docteur Chauvet. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous, c'est évidemment son intérêt pour l'occultisme, son intérêt pour l'ésotérisme. Alors, nous avons une première série de documents qui sont les lettres que Chauvet adressa à Papus. Papus, certains d'entre vous connaissent sans doute bien ce nom, Papus était le pseudonyme emprunté au Nyctémérone d'Apollonius de Tyane du docteur, un autre médecin encore, Gérard Ancos, qu'on appelait parfois le mage Papus et qu'on appelait aussi le vulgarisateur de l'occultisme, voire le Balzac de l'occultisme. Papus fut un entraîneur d'hommes, ce fut sans aucun doute l'un des grands animateurs, comme on dirait aujourd'hui, du mouvement occultiste à la Belle Époque. Or Chauvet entra en rapport avec Papus en 1900. La première lettre qu'il lui adressa nous intéresse particulièrement car Papus, considéré par Chauvet comme un maître, et comme le grand maître de certaines organisations initiatiques, dont une, l'ordre martiniste, à laquelle, je vous le dirai tout à l'heure, Chauvet appartint, Papus donc reçut de Chauvet la confidence des circonstances dans lesquelles il avait été amené, lui Chauvet, à s'intéresser à l'ésotérisme, dirions-nous, à l'occultisme, et lui dit ici aux sciences occultes. J'ai été amené, dit Chauvet, à m'occuper des sciences occultes par la force des choses, pour ainsi dire. N'ayant pas trouvé dans les religions chrétiennes actuelles de solutions satisfaisantes pour tout ce qui concerne Dieu, l'univers, le bien et le mal, le but de l'homme ici-bas et sa fin véritable, je finis par tout abandonner et cherchais dans le matérialisme la solution de ces problèmes. Je n'y trouvais rien qu'une vie sans but, un néant qui ne satisfaisait ni ma raison ni mon intelligence. C'est alors, il y a déjà quelques années de cela, que me tombèrent entre les mains quelques numéros de l'Initiation. L'Initiation était une revue fondée par Papus, précisément, dont le premier numéro parut, si je ne me trompe, en 1888. Dès lors, continue Chauvet, ma voix s'ouvrit. Lentement, je dois le confesser, car au début, je lus cela plutôt en curieux qu'en adepte, et n'y vis guère qu'une science sans suite, sans base, des rêveries plutôt que des choses sérieuses. Je n'avais pas la clé. Cependant, je continuai et la lumière se fit peu à peu. Je suis sur le sentier, que Dieu veuille me soutenir dans sa marche. Le but que je poursuis, c'est de me rapprocher le plus possible de la vérité, d'élucider autant qu'il est possible les grands problèmes posés à l'homme et que les seuls initiés, ou plutôt adeptes, peuvent sûrement résoudre. Je ne me fais aucune illusion sur la difficulté du but à atteindre, ni sur les qualités requises pour arriver. Je sais que je suis loin, très loin de ce but, à peine au seuil du temple, et qu'il est même probable que je n'y pénétrerai jamais. Mais que voulez-vous? J'ai confiance en Dieu et en notre divin maître. C'est de Jésus-Christ qu'il parle, bien sûr. Et je sais qu'il n'abandonne pas ceux qui veulent. Oh, dit Chauvet, si j'avais un peu plus de volonté et si j'étais moins sur le plan terrestre. Enfin, je pense peu à peu m'améliorer et avancer dans la voie de la réintégration. Il continue, et je crois que c'est intéressant pour nous. Comme travaux, j'étudie sérieusement l'hébreu, dès 1900 et sans doute une ou deux années auparavant, avait-il commencé cette étude. Comme travaux, j'étudie sérieusement l'hébreu, les philosophes alexandrins, Saint-Martin, etc. J'ai lu pas mal de Fabre d'Olivet, dont j'étudie la langue hébraïque restituée. Fabre d'Olivet, dont certains d'entre vous connaissent peut-être le nom, dans cet ouvrage intitulé « La langue hébraïque restituée », s'était proposé selon une méthode très différente, et d'ailleurs peu appréciée de Chauvet, s'était proposé un but analogue, presque identique à celui de Chauvet, à savoir déchiffrer le texte de la Genèse afin d'en découvrir le sens ésotérique. Donc, Chauvet confie à Papus qu'il a lu pas mal de Fabre d'Olivet, dont j'étudie, dit-il, la langue hébraïque restituée, un peu de Stanislas de Gaïta, Papus, Abel Attan, c'est dire l'initiation, etc. Mais tout cela est assez mal coordonné. Le grand travail, et celui dont je tire, il me semble, assez bon profit, c'est le travail personnel et la méditation. Bien des choses se sont éclaircies à mes yeux depuis que l'initiateur m'a transmis les clés de l'ordre martiniste, ou du moins je le crois, mais je puis aussi bien être dans l'erreur. Presque tout m'échappe encore. Nous n'avons pas le temps de lire davantage ces lettres. Je m'arrête sur ce passage où il mentionne l'ordre martiniste. L'ordre martiniste est une société fondée par Papus en 1887, donc très peu avant qu'il ne lança l'initiation. Société intitulée martiniste par référence à deux théosophes du XVIIIe siècle, Martinez de Pasquali, théurge, et Louis-Claude de Saint-Martin, dit le philosophe inconnu, son élève. Cet ordre martiniste avait été constitué par Papus en une véritable société. C'était une fondation véritablement de Papus, l'ordre martiniste ne remonte pas à Louis-Claude de Saint-Martin, et cette structure assez simple consistait en groupes fédérés sous l'autorité d'un suprême conseil, lequel était pourvu d'un président, et ce président, bien sûr, était Papus. Peut-être puis-je vous dire quelle est la mention manuscrite que Papus porta sur la lettre dont je vous ai lu la plus grande partie, cette lettre, cette sorte de confession de Chauvet à Papus. Papus a porté quelques indications à l'intention de son secrétaire en lui disant ce qu'il fallait répondre à Chauvet. Il n'a pas retrouvé cette lettre, mais sans aucun doute le secrétaire a fidèlement exprimé à Chauvet les conseils de Papus, et ces conseils, Papus donc les avait résumés ainsi, « Pour le moment, des livres. Lire le bulletin de l'école. » L'école, c'est l'école hermétique, une autre fondation de Papus, où l'on enseignait les grandes disciplines ésotériques. Méditer, spécialement le soir de 9 à 10. Dès qu'on est fatigué de la métaphysique, lire l'évangile en y cherchant le sentiment. C'est donc la première lettre de Chauvet à Papus. Chauvet était martiniste et il appartenait au groupe martiniste de Nantes, ce groupe qui avait été fondé sous le titre distinctif « Les temps nouveaux » par un personnage tout à fait singulier qui finit d'ailleurs dans un asile d'aliénés et qui s'appelait Lessard. Et qui prit parfois le pseudonyme de Verdun Lessard. Son véritable nom était Lessard, qui était un coiffeur de profession. Comme au XVIIIe siècle, il y avait du Alliette, qui est célèbre pour ses ouvrages sur le tarot, qui était perruquier. Eh bien, Lessard était à l'origine coiffeur, et puis devint libraire et fut actif dans l'ordre martiniste. Il fut actif également dans l'église gnostique et dans un certain nombre d'autres organisations de ce genre. Donc Chauvet entre dans le groupe fondé par Lessard et pendant plusieurs années, il en est un disciple tout à fait fidèle. Un certain nombre de lettres qu'il écrit, soit en son nom propre, soit au nom du groupe, à Papus, ou parfois à des collaborateurs de Papus, montrent à la fois son assiduité, le sérieux qu'il mettait à suivre, non seulement les enseignements, mais même les règlements de l'ordre martiniste, et même dans ce qu'il pouvait avoir de plus formel. Il y a par exemple une lettre où Chauvet demande quelle est la forme exacte du manteau, un simple petit croquis pour indiquer comment le faire en la forme pentagonale qu'il doit avoir. Il demande des renseignements sur le masque, sur la coiffure, dont il demande un exemplaire contre remboursement si toutefois le prix n'est pas trop élevé, parce que le groupe n'est pas très riche, il demande un cordon, un bijou, etc. Pendant quelques années donc, Chauvet est disciple exemplaire de l'ordre martiniste. En entrant dans l'ordre martiniste, Chauvet a choisi un pseudonyme, ou comme l'on disait dans l'ordre martiniste, un nomen, c'est-à-dire un nom mystique, avec un peu de pédanterie, on pourrait dire un hiéronyme. Et quel nom choisit-il ? Il choisit le nom de Saïr. C'est un nom qu'il utilisera dans l'ordre martiniste, mais qu'il utilisera aussi pour signer deux brochures et pour signer également quelques articles qu'il donnera à la revue L'Initiation ou à la revue Le Voile d'Isis, qui est également une revue fondée par Papus. Donc, Saïr. Le sens de ce nom, qui avait pour Chauvet un caractère trop sacré pour que j'ose l'appeler un pseudonyme, c'est pourquoi je disais hiéronyme, ou disons ce nom mystique, est intéressant. C'est un terme qui, en effet, est un terme hébreu, qui se retrouve dans la Bible, qui se trouve dans la Bible avec deux significations différentes. D'une part, en une seule occasion, c'est un apax, comme un toponyme pour désigner une ville, mais cela ne nous intéresse pas. Et puis c'est un adjectif qualificatif qui exprime la petitesse, la modestie. Dans certains passages, Saïr, que l'on pourrait plus exactement transcrire par Tsaïr, puisque, je ne sais pas, si vous ne connaissez pas l'hébreu. Le mot commence par cette lettre-ci. Enfin, il a été translittéré ici. Saïr, et je suis évidemment la translittération de Chauvet. Ce mot de Saïr, dans quelques passages, signifie petit en nombre. Dans d'autres passages, signifie petit en âge, c'est-à-dire jeune, sens qu'il a par exemple dans le livre de Job. Mais il signifie aussi petit en dignité, voire méprisé, humble. Et ça me paraît très intéressant, parce que je crois que c'est cette idée d'humilité, de modestie que Saïr a voulu exprimer. Et d'une manière plus particulière, mais ça c'est une hypothèse que je forme, je crois qu'elle n'est pas trop hardie, je pense que Chauvet a dû être inspiré par un passage particulier de la Bible où l'on trouve cet adjectif Saïr. C'est un passage des Juges, au chapitre 6, verset 15, si la référence vous intéresse, où l'adjectif qualificatif Saïr, est attribué à Gédéon. Gédéon, dans la bouche de qui la Bible place ces mots, « Je suis le dernier dans la maison de mon père ». Je pense que Saïr Chauvet, a pu comparer sa vocation à celle de Gédéon et a pu souhaiter être à la fois aussi efficace, accomplir d'aussi grandes choses que Gédéon l'avait fait, et en même temps reconnaître que ce qu'il pourrait accomplir, comme dans le cas de Gédéon, ne viendrait pas tant de lui puisqu'il était petit, mais viendrait de la force de Dieu suppléante à sa faiblesse. Je ne serais pas étonné que le Hiéronyme, puisque Hiéronyme il y a de Saïr, vint de cet usage dans le livre des juges s'agissant de Gédéon, qui est, comme vous le savez, le cinquième juge d'Israël, qui effectivement, avec un tout petit groupe de compagnons, accomplit de très grandes choses, quoi qu'il refusât, ou peut-être parce qu'il a refusé, d'être roi, mais a exercé tout de même sa souveraineté sur un certain nombre de tribus qu'il avait libérées des Madianites. Les relations de Chauvet avec les occultistes de son temps furent des relations non seulement intellectuelles, mais même personnelles. Il les reçut à Nantes. Il reçut Papus également au Croisic pendant des vacances. Et l'on pourrait citer les noms de Cédir ou de Marc Aven qui furent de véritables amis pour Chauvet. Un nom me paraît plus important, c'est celui de Saint-Yves d'Alvèdre. Saint-Yves d'Alvèdre, que Papus appelait son maître intellectuel et qui n'appartenait pas d'une manière régulière, si je puis dire, au milieu des occultistes. Il a toujours refusé d'entrer dans aucune des sociétés fondées par Papus, notamment, et à commencer par l'ordre martiniste. Mais Saint-Yves d'Alvèdre connaissait bien les occultistes, était ami avec un certain nombre d'entre eux, et la plupart, sinon la totalité, le considéraient comme un véritable maître. Ce Saint-Yves d'Alvèdre, il faut également inscrire le nom, Joseph Alexandre Saint-Yves, qui devait ensuite recevoir le titre de marquis d'Alvèdre, parce que ce titre était attaché à une terre italienne dont il devint propriétaire, mais ça ne nous intéresse pas. Joseph Alexandre Saint-Yves, donc, connu sous le nom de Saint-Yves d'Alvèdre, qui est né en 1842, qui est mort en 1909, et l'auteur d'une œuvre difficile et abondante, et qui comporte une série d'ouvrages dont le titre commence par le mot mission, mission des souverains, mission des ouvriers, mission de l'Inde, etc., et qui comporte, je dirais principalement, qui comporte en synthèse, un ouvrage intitulé L'Archéomètre. L'Archéomètre qui ne fut pas publié du vivant de Saint-Yves, il mourut avant de l'avoir vu sortir des presses. Cet ouvrage intitulé L'Archéomètre expose le plan et le mode d'emploi de ce qu'on pourrait appeler un instrument de correspondance universelle. C'est l'archéomètre, c'est un instrument qui voudrait réaliser ce grand rêve de Raymond Lull, ce grand rêve de Leibniz, ce grand rêve de la plupart des ésotéristes, peut-être même de tous les ésotéristes, car c'est probablement le rêve de l'ésotérisme même, à savoir la science universelle, à savoir le moyen de trouver le mot de l'énigme, étant bien entendu que le mot de l'énigme n'est pas seulement, comme je le disais tout à l'heure, le mot de l'énigme de la Genèse, mais un mot qui est universel et qui, sous différentes formes, sous différentes expressions, peut s'appliquer à n'importe quelle réalité et permettre d'en déchiffrer le véritable sens. Donc, l'archéomètre, c'est un instrument, et le livre décrit cet instrument et explique comment s'en servir. C'est un instrument qui expose la correspondance entre les couleurs, les notes de la gamme, les formes, les nombres, les sons et les lettres, bien entendu. Une des applications de l'archéomètre sera de trouver le mot de certains textes, et en particulier des textes sanscrits ou des textes hébreux. Vous voyez dans quelle mesure l'idée, le projet de Saint-Yves d'Alvèvre correspond à l'idée, au projet de Chauvet, même si Chauvet ne l'a pas réalisé sous la même forme et n'a pas suivi l'application que Saint-Yves d'Alvèvre a donnée de l'archéomètre, car Saint-Yves d'Alvèvre a travaillé à l'archéomètre et aussi a appliqué l'archéomètre au déchiffrement de la Genèse et au déchiffrement du Nouveau Testament dans une direction qui sera reprise par Chauvet, même si la méthode elle-même n'est pas reprise par lui. Et puis Saint-Yves d'Alvèdre se soucie beaucoup des applications, puisqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une science universelle, elle a aussi des applications sociales, des applications politiques. Saint-Yves d'Alvèdre s'en soucie beaucoup, il a proposé la structure sociale que l'on connaît depuis, lui d'ailleurs, sous le nom de synarchie, cette structure sociale devant être analogue à celle du corps humain, toujours cette idée que la correspondance est universelle et que les lois d'une véritable biologie doivent s'appliquer de même quant au corps humain et quant à la société. Cette idée d'une conséquence sociale, politique, d'une application nécessaire de la science universelle qu'est la science ésotérique au domaine social et politique, est une idée que jamais Chauvet n'abandonnera. C'est même un souci qui ne le quittera jamais. Et je crois que là, on peut voir, outre sans doute un certain tempérament et un certain scrupule, un certain sens de la responsabilité du savant, du chercheur, je crois qu'on peut voir là, au moins pour une bonne part, l'influence de Saint-Yves d'Alvèdre. Et contrairement à ce qui se passe dans le cas de l'interprétation ésotérique de la Genèse, Chauvet recevra de Saint-Yves d'Alvèdre non seulement le projet, mais même la formule. Et Chauvet défendra l'organisation synarchique de la société. Il restera dans ce domaine tout à fait fidèle à Saint-Yves d'Alvèdre. Il le sera dans deux écrits que je voudrais citer. Le premier, qui est paru en 1905, et qui a été publié par Lessard, le coiffeur ésotériste, le fondateur et patron, président du groupe, ou comme on disait alors, de la loge martiniste de Nantes, où Chauvet fut initié. Ce petit livre s'appelle « Claude de Saint-Martin, le philosophe inconnu, interprétation de la véritable doctrine et de son application comme base de la sociologie » par Saïr, et reproduit le texte d'un exposé fait le 29 octobre 1903 à l'intérieur même de ce groupe martiniste de Nantes. Il y a là un certain nombre de considérations tout à fait pertinentes sur l'ésotérisme, sur l'analogie comme méthode de l'ésotérisme, sur la cabale, et peut-être dois-je dire ici que Chauvet changera assez rapidement d'avis. Non pas, là encore, quant au projet, quant à l'appréciation qu'il portera sur le projet de la Kabbale, puisque son projet en sera extrêmement proche, mais quant à la méthode de la Kabbale qu'il condamnera, que non seulement il n'utilisera pas dans le déchiffrement de la Genèse, et particulièrement des 10 premiers chapitres, mais encore méthode qu'il repoussera et qu'il jugera arbitraire et qu'il critiquera d'une manière extrêmement virulente, extrêmement acerbe, il faut bien le dire. Et puis, dans cette petite brochure de 1905, Chauvet conclut précisément sur les applications sociales et politiques, c'est-à-dire de l'ésotérisme, c'est-à-dire sur la nécessité, pour parler clair, que les martinistes travaillent à instaurer l'ordre synarchique. Peut-être ici une parenthèse, il y eut dans les années 30, il y eut dans la France occupée un mouvement politique connu sous le nom de mouvement synarchique d'Empire. C'est un phénomène d'ordre politique, C'est un phénomène qui fut d'ailleurs probablement très grossi. C'est en tout cas un phénomène qui, quelle que soit la référence que certains de ceux qui participèrent ont pu faire à l'œuvre de Saint-Yves d'Alvèdre, et ça n'en est pas la totalité, c'est un phénomène qui ne découle pas directement de l'œuvre de Saint-Yves d'Alvèdre et auquel on ne saurait pas rattacher directement Saint-Yves d'Alvèdre, ni des disciples de Saint-Yves d'Alvèdre, tels que, par exemple, le docteur Auguste-Édouard Chauvet. Et puis, un autre ouvrage, intitulé « L'état social vrai », qui sera publié en première édition chez Lessard, toujours en 1912, qui sera repris dans « Le voile d'Isis » en 1922 et tiré à part la même année. Cet ouvrage, cette brochure plutôt, s'efforce également de vanter les mérites de la synarchie. J'ai parlé de l'archéomètre et de l'application de l'archéométrie, pourrait-on dire, au déchiffrement de la Genèse et du Nouveau Testament. Eh bien, l'archéomètre est paru après la mort de Saint-Yves, 1912, et puis la théogonie des patriarches, est parue peu après, et a donné, selon Saint-Yves d'Alvèdre, précisément cette application de l'archéométrie au déchiffrement des textes sacrés. Il est important de mentionner ces publications, non seulement parce qu'elles intéressent deux œuvres de Saint-Yves d'Alvèdre dont Chauvet s'est incontestablement inspiré en partie, mais parce que Chauvet, qui avait eu connaissance des travaux de Saint-Yves aussi bien dans le domaine très général de l'archéométrie que dans le domaine particulier de l'application de l'archéométrie au déchiffrement des textes sacrés, et il y a une correspondance de Saint-Yves d'Alvèdre avec Chauvet, les lettres de Saint-Yves d'Alvèdre qui ont été conservées et qui montrent bien quelle confiance Saint-Yves d'Alvèdre avait dans l'intelligence et dans la sincérité de Chauvet et qui par conséquent lui communiquait les résultats de ses recherches dans ces deux domaines qui étaient vraiment les domaines essentiels pour Saint-Yves d'Alvèdre dans les dernières années de sa vie, dernières années où il fut physiquement malade en même temps que moralement affligé et où d'ailleurs Saïr Chauvet ne fut pas seulement pour lui un disciple, un confident intellectuel, pas seulement un ami, mais fut également un médecin, et fut médecin, ami et confident intellectuel tout ensemble. Chauvet donc, tout naturellement, après la mort de Saint-Yves d'Alvèdre, fut appelé par Papus, lequel Papus en avait reçu mission des héritiers de Saint-Yves. Chauvet fut appelé à collaborer à l'édition, à la préparation d'abord, à la mise en ordre, à la mise en forme de l'archéomètre, de la théogonie des patriarches, et à, par conséquent, en permettre l'édition. Papus avait constitué une petite société, un petit groupe, dit des amis de Saint-Yves, et c'est incontestablement Auguste-Édouard Chauvet qui en fut le membre le plus actif, puisque c'est lui qui connaissait le mieux la pensée de Saint-Yves et qui connaissait même les textes qu'il allait s'agir de préparer, de sorte que l'archéomètre est en bonne partie l'œuvre, non pas dans le fond, mais du moins dans l'organisation formelle de Auguste-Édouard Chauvet et aussi en ce qui concerne la théogonie des patriarches. Je voudrais maintenant que nous fréquentions un petit peu, si vous le voulez bien, le docteur Chauvet, non plus dans des lettres à Papus, non plus dans les lettres qu'il reçut de Saint-Yves d'Alvèdre et que nous n'avons pas le temps de regarder aujourd'hui, non plus dans les lettres que Chauvet envoya à Papus, précisément au sujet de l'édition de l'archéomètre. Ce sont des lettres que j'ai pu retrouver et qui montrent justement la part très importante que Chauvet prit à cette édition. Mais je voudrais vous proposer de parcourir la correspondance, ou plutôt, car nous ne possédons que la moitié de cette correspondance jusqu'à présent, plutôt les lettres d'Auguste-Édouard Chauvet à l'un de ses confrères en médecine, le docteur Octave Béliard. Docteur Octave Béliard, qui était également nantais, qui avait aussi appartenu, qui avait découvert, il l'a dit lui-même, en 1897, Louis-Claude de Saint-Martin, et peu après l'ordre martiniste, qui avait appartenu à l'ordre martiniste, et particulièrement au groupe de Nantes, avec Saïr Chauvet. Docteur Octave Béliard, qui fut véritablement l'ami de toujours, le vieux frère, comme Chauvet l'appelle fréquemment dans ses lettres, et celui avec qui il communia, probablement de la manière la plus constante et la plus profonde. Les lettres de Chauvet, que nous avons pu retrouver, sont des lettres qui s'échelonnent entre 1902 et 1946. Ce sont ces lettres que je vous proposerai de parcourir avec moi. La lettre de 1902, nous sommes en 1902, c'est donc l'époque occultiste, c'est l'époque martiniste de Chauvet, et déjà il commence à s'inquiéter un peu de certaines infidélités, dirons-nous, de l'occultisme et du martinisme en particulier, s'agissant de l'ésotérisme et s'agissant même de Saint-Martin, auquel l'ordre martiniste se réfère de manière particulière. Chauvet écrit à Béliard en parlant de l'ordre martiniste, en parlant de la direction parisienne de l'ordre martiniste. Il lui écrit « Les lettres toujours sans réponse, les demandes résolues évasivement ou point du tout, me font craindre la réalité que vous avez hélas constatée. » On peut aisément imaginer ce que Béliard avait dû écrire à Chauvet. « Enfin, ne désespérons pas et n'accusons pas le martinisme de ce dont je crois responsables les seuls martinistes. » Saint-Martin, dit Chauvet, serait bien étonné d'être ainsi compris. Mais, ajoute-t-il, ces gens-là nous ont fait connaître Saint-Martin. Il lui possédait la vérité, je continue à le croire. Et pour avoir fait connaître Saint-Martin à lui-même et à Béliard et à quelques autres, Chauvet estime qu'il ne faut pas rompre, qu'il faut garder une certaine reconnaissance, et qu'il ira à Paris et qu'il essaiera de mettre les choses au point avec la direction. En attendant, il conseille à Béliard d'aller voir un certain docteur Rosier, le plus sérieux et le plus avancé, dit-il, et également d'essayer de rencontrer Barlet, qui lui paraît aussi beaucoup plus sérieux. Je vous ai dit qu'en 1905, il y avait eu la publication de cette brochure, et puis Chauvet laisse le martinisme, mais il ne laisse pas Béliard, ni sa correspondance, et la lettre suivante est de 1910. En 1910, il écrit au sujet d'un article à Octave Béliard. C'est un texte d'un intérêt, disons, un peu particulier. Nous passons ensuite en 1921. En 1921, Béliard a publié un ouvrage sur les sorciers. Et il a exprimé, probablement par crainte d'une réprimande, il a exprimé, lui, Béliard, à Chauvet, son regret de n'avoir pas pu marquer davantage la distinction entre le naturel et le surnaturel. Et Chauvet le console et lui dit « Le livre est bien tel qu'il est. » Et ajoute « Si on veut écrire un livre vraiment ésotérique, il faut le faire en toute indépendance, et alors on ne trouve aucun éditeur, bien entendu. » Je ne dirais pas que c'était prémonitoire, mais c'était certainement une grande lucidité, car Chauvet lui-même allait connaître, nous allons le voir très bientôt, des difficultés pour publier l'ouvrage vraiment ésotérique dont il était l'auteur, cet ouvrage qui a justement pour titre « Ésotérisme de la Genèse ». Et puis, Chauvet répond à Béliard sur son idée des chevaliers du Christ ou des gardiens du Saint Graal, c'est-à-dire d'une société que Béliard se proposait de fonder avec deux Bordelais, un homonyme du docteur Chauvet, un certain Jamy Chauvet, qui n'était pas son parent, et un certain Léo Gobert, qui était poète, qui était romancier. Cet ordre des gardiens du Graal, dont l'idée donc est lancée par Béliard, qui lui propose à Chauvet d'être le quatrième, Chauvet n'est pas très enthousiaste, mais il trouve l'idée séduisante, d'autant dit-il que c'était une idée de Saint-Yves qui rêvait une association de ce genre avec conférenciers, etc. Il y aura des difficultés, mais quand vous aurez le temps, expliquez-moi, dit Chauvet à Béliard, ce que vous voulez. Vous savez que je vous suis d'avance tout acquis à cette idée. Quelques critiques contre Fanec, quelques critiques contre Sédien, des occultistes à qui il reproche certains côtés mondains ou certaines compromissions, et surtout d'oublier le rôle social de l'ésotérisme. La pure et simple doctrine primitive, dit Chauvet, a été non seulement surchargée par eux, mais mutilée dans la mesure où ils en ont oublié la dimension sociale. Je suis infiniment reconnaissant à Saint-Yves de nous avoir remis en main le critère de vérité. Non pas certes qu'il n'ait pas lui-même parfois perdu de vue ce critère, mais un homme n'est qu'un homme, et si grand soit-il, si élevé soit-il par l'intelligence et le cœur, et c'était le cas de Saint-Yves, il a toujours ses faiblesses. Plusieurs lettres en 1921, plusieurs lettres de Chauvet à Béliard parlent de cet ordre des gardiens du Graal et répondent à des observations ou à des demandes d'avis que Béliard avait adressées à Chauvet. On note en 21 un éloge de Ficin. Marcel Ficin, j'y reviendrai tout à l'heure, était l'une des grandes admirations de Chauvet, qui appartient bien sûr à la grande lignée pythagoricienne. En 1921, toujours, des problèmes entre les Bordelais, Octave Béliard et Chauvet, toujours à la recherche de cet accord pour instituer l'ordre des chevaliers du Christ ou des gardiens du Graal. J'ai horreur de la discipline, dit Chauvet, et je redoute d'être un boulet. Je n'ai jamais cherché ni honneur ni richesse. Je n'ai voulu, dit-il, que faire de mes enfants des hommes. Et il espère avoir réussi. Néanmoins, je crois devoir répondre à votre appel, dit-il à Béliard, car je vous crois missionné. Toujours l'affaire de cet ordre dont, au mois d'août, on commence à discuter sur le nombre de grades, 6 grades scellés par la traditionnelle hexade, etc. Discussion sur les statuts, pour savoir si un seul des membres aurait le droit d'obtenir la dissolution s'il la demandait, si l'on doit avoir recours au vote majoritaire ou non, etc. Tout cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse plus, c'est une déclaration de foi de Chauvet qui tient pour préciser les choses et en particulier pour répondre à Gobert, l'un des quatre fondateurs de l'ordre des gardiens du Graal, qu'il avait accusé d'être protestant. Il dit que bien sûr il est protestant uniquement dans la mesure où il proteste contre cette qualification. Et il exprime sa croyance, sa foi dans ces termes. Je crois en Jésus-Christ, Verbe divin, Créateur, Conservateur et Rédempteur, Fils unique de Dieu, deuxième personne de la Trinité, laquelle se constitue du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul et même Dieu. Je crois à l'Église catholique universelle, composée de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, qu'ils soient illuminés ou non. Je crois à tous les dogmes que cette Église sous sa forme romaine nous enseigne, et j'y crois sans chicaner ni argoter, mais j'y crois avec ma raison et mon intelligence, attendant humblement que Dieu, si telle est sa volonté, me donne l'illumination, et s'il ne me la donne pas, je ne l'en voudrai pas, et je n'en continuerai pas moins à l'adorer et à l'aimer. Que même si cette illumination ne devait être pour moi qu'un sujet de juger de haut et d'excommunier mes frères, je prie ardemment le Seigneur de m'en préserver. Il n'est pas toujours bon de planer trop haut si les ailes faiblissent ou se rompent, car la chute n'en est que plus terrible. 1921, encore à propos de cet ordre à fonder, il faut établir le règne de Dieu sur terre, c'est à cela que doit mener l'ésotérisme. Chauvet, avant de publier l'année suivante une deuxième édition, d'ailleurs semblable à la première, de son étude sur l'état social vrai, publie dans le Voile d'Isis un article sur l'intelligence. Et il dit que chaque Ornac, l'éditeur du Voile d'Isis, l'éditeur de l'initiation, voudrait que lui, Chauvet, vit un certain nombre de personnes à tendance synarchique à qui il pourrait être utile. Et Chauvet accepte de se rendre à Paris pour les rencontrer, car il peut, espère-t-il, rendre ainsi service. Et puis voilà une lettre capitale en ce qui nous concerne. C'est une lettre du 10 octobre 1926. Chauvet écrit à Béliard. J'ai tant de choses à vous dire et j'en aurai beaucoup à vous montrer. J'en emporterai un peu si je vais vous voir. Vous savez ou vous ne savez pas que j'ai entrepris un travail fou. C'est bien le cas de le dire. Une synthèse basée sur les textes ésotériques de la tradition universelle. C'est passionnant évidemment, mais il ne faudrait pas avoir 63 ans. J'ai donc repris les textes et posant en principe qu'à une tradition universelle devait correspondre une langue universelle aussi, j'ai commencé à m'assurer si cette idée, d'ailleurs empruntée à Saint-Yves qu'il avait mal prouvé, si cette idée était vraie. J'ai donc comparé les racines hébraïques aux racines sanscrites, deux langues aussi disparates que possible, et je puis dire que la confirmation fut au-dessus de mes espoirs. Je me suis attaché alors à la traduction de la Genèse, je vous expliquerai comment, et si je suis parvenu à un sens qui laisse complètement derrière lui celui de la Vulgate, bien entendu, et celui de Fabre d'Olivet, qui pour des raisons multiples s'est trompé à peu près partout, je n'en crois pas moins que ce sens prouve, à n'en pas douter, du moins je n'en doute pas, l'existence affirmée mais non prouvée par Saint-Yves de la tradition et de sa langue ésotérique, universelle et unique. De ce fait, le Nouveau Testament confirmera l'Ancien. Voilà, donc en 1926, en octobre 26, la première attestation de cette œuvre monumentale que nous allons étudier à partir de la prochaine fois et qui sera intitulée, quand elle paraîtra en 46 seulement, « Ésotérisme de la Genèse ». Mais le dessin de Chauvet est déjà parfaitement exprimé dans cette première lettre. Et dans beaucoup de lettres suivantes, il va être question de cette œuvre qui est vraiment le point d'attache dans la vie de Chauvet, qui pratique la médecine sans enthousiasme, mais qui, avec enthousiasme, travaille dans une pièce sombre et tape, comme il dit quelque part, comme un sourd sur sa machine à écrire. Ainsi, il dira en 1927, le 22 janvier, à Béliard toujours, « J'ai terminé la traduction provisoire des 7 derniers chapitres de la décade initiatique de la Genèse et je suis complètement au point où à peu près. Quand nous reverrons-nous pour parler de tout cela? L'exposé de la sociologie humaine à travers les noms symboliques des soi-disant patriarches est quelque chose de prodigieux. Vous voyez que le souci social et politique ne l'abandonne jamais. » En 1928, Béliard publie un livre sur le marquis de Sade, et cela nous vaut une lettre que je regrette de ne pas avoir le temps de lire maintenant, peut-être en une autre occasion, une lettre de Chauvet qui félicite son ami, son camarade, son compagnon et un peu son disciple aussi, et qui lui dit qu'il n'a jamais lu Sade, mais qu'il trouve ce livre extrêmement intéressant, qu'il trouve le personnage de Sade digne de réflexion, et d'ailleurs propose un certain nombre de réflexions sur Sade à l'auteur de cet ouvrage, donc Béliard. En 1928, voilà de nouveau un passage qui concerne ce qui sera l'ésotérisme de la Genèse. Je voudrais que vous puissiez me consacrer une journée pleine quand il ira à Paris, afin que je vous lise, sinon le tout, du moins les parties les plus importantes des derniers chapitres de mon œuvre. Je ne sais si vous y trouverez le même plaisir que j'y ai à l'écrire, mais je puis vous assurer qu'à défaut d'autres qualités nombreuses, cette partie de la Genèse, du 4e au 10e chapitre inclus, m'a plongé dans la complète stupéfaction en ce qui concerne notamment la science incroyable que rien ne laisse soupçonner dans le texte. Mais quelles complications, etc. Belliard publia ensuite un ouvrage intitulé « Les petits hommes de la Pinède » et Chauvel lui propose aussi des réflexions sur cet ouvrage et sur l'évolution qu'il juge impliquée par le sujet de cet ouvrage qui est la création d'une humanité artificielle. En 1932, il est encore question de l'ésotérisme de la Genèse. Depuis votre lettre m'annonçant la réception de mon introduction à la Genèse, c'est-à-dire l'introduction que Chauvet avait donc envoyée à Belliard, je n'ai plus entendu parler de vous. J'ai recopié Hermès et je mets au point une étude sur les systèmes philosophiques hindous. L'une et l'autre de ces études devant dans mon esprit, si Dieu me prête vie, constituer une contrepartie, pour ainsi dire, de la tradition orthodoxe donnée par le Bereshit. Bereshit, c'est le nom hébreu de la Genèse. Nous aurons tout loisir de revenir là-dessus. Il s'agirait donc d'une partie de cet ouvrage dont le cœur est le déchiffrement de la Genèse. En 1932, après une évocation de ces temps où, dit Chauvet à Belliard, nous étions des jeunes, des enthousiastes, à l'époque de nos réunions chez ce bon Lessard, dont le cénacle était l'image fidèle de sa boutique. Je crois que ça veut dire que c'était très hétéroclite et très désordonné. Et il nous en reste quelque chose, Dieu soit loué. Mais ce qui fait surtout la joie de Chauvet, c'est que Belliard a approuvé, d'une manière générale, son premier chapitre, et que même Victor-Émile Michelet, un occultiste de la vieille école, esprit rassis, dit Chauvet, en a été satisfait. J'avoue, dit Chauvet, que c'était surtout de ces représentants de l'époque de Stanislas de Gaïta, de Papus, etc., très imbus des théories de Fabre d'Olivet, c'est d'eux que je redoutais une opposition. Et il se réjouit de voir que cette opposition ne vient pas. Et puis, il espère que Chamuel, donc l'éditeur Chamuel, pourra prendre en main l'édition de son ouvrage sur l'ésotérisme de la Genèse. Il continue à mettre au point son livre, il en discute avec Belliard, il vient de temps en temps à Paris et Belliard, qui a fondé une nouvelle organisation qu'il appelle le Bagage, réunit parfois quelques-uns de ses fidèles pour entendre ce que Chauvet a à leur expliquer sur ses découvertes concernant l'ésotérisme de la Genèse. Et puis, le manuscrit est remis à Chamuel, qui a qualifié Chauvet, c'est Chauvet lui-même qui le dit à Belliard, il m'a qualifié du plus grand initié de l'heure, mais malheureusement il demande en même temps une contribution aux frais d'édition dans la mesure la plus large possible. Chauvet acceptera cette contribution. L'ouvrage sera composé, il semble que le tirage commencera, et puis Chamuel utilisera, comme le dit Chauvet lui-même, les fonds qui lui ont été remis à des usages personnels, il fera faillite et probablement le plomb sera fondu. Toujours est-il que non seulement cette édition ne sera jamais réalisée, mais encore aucune trace n'en est restée. Ce qui provoque bien sûr une grande déception de Chauvet, qui envisage en 1933, un peu découragé, dit-il, il envisage une édition par souscription. Et puis cette édition n'étant pas faite, Chauvet continue à travailler. Il travaille aussi sur d'autres parties de la Bible. En 1939, par exemple, il envoie à Belliard une traduction directement sur l'hébreu du Cantique des Cantiques, faite en serrant le texte d'aussi près que possible et en évitant toute paraphrase. Vous me direz, dit-il, à Belliard, ce que vous en pensez. Un passage que je tiens à lire pour montrer que ces recherches érudites, intellectuelles, ésotériques de Chauvet ne lui ont jamais fait perdre ni sa foi ni sa piété. Il écrit en 1942 à Belliard « Je ne vous oublierai pas, ni vous, ni elle. » Elle, c'est Jeanne, la compagne, l'épouse de Belliard qui vient de mourir. « Jeudi, dit-il, Chauvet, je ferai ma communion pour elle dans ce beau jour de l'Ascension et je prierai de tout mon cœur pour elle et pour vous. » Et s'ensuit un admirable passage sur la communion des saints. 1943. Je vieillis terriblement. Je n'ai plus beaucoup d'espoir. Non que je redoute le passage, surtout dans les circonstances actuelles, mais pour tout ce que je laisse inachevé, et sans savoir, ou plutôt ne sachant que trop, ce que tout cela deviendra. Enfin, à la grâce de celui qui sait tout, et dont les desseins sont impénétrables. Et puis, cette lettre est de 1943, du 16 janvier. Et puis, en 1943 encore, mais alors le 8 octobre, la lumière apparaît aux yeux de Chauvet. Il envisage la possibilité de publier ce livre, et il se réjouit d'avoir trouvé un disciple, son seul disciple. Il écrit à Bellegarde. D'abord, il lui dit que Nantes est en grande partie détruite, que tout le centre a été bombardé, et il donne une description extrêmement précise des ravages de ceux qu'il appelle les libérateurs. Et puis ceci. Je travaille d'arrache-pied à la mise au point définitive de mon ouvrage. Il faut absolument que ce soit prêt fin juin, avant le grand départ. Dieu a mis sur ma route un brave abbé, qui est devenu pour moi non seulement un disciple, le vrai, l'unique, mais un véritable alter ego, plus enthousiaste de jour en jour. Malheureusement, il habite à Nières, mais cela ne fait rien. J'espère bien tout de même que nous pourrons peut-être réussir à grouper quelques convaincus, parmi lesquels je vous compte, dit Chauvet à Bellegarde, et ai-je besoin de le dire, pour la mise en route, après la guerre, que je sois ici-bas ou que je n'y sois pas, de l'ouvrage. Ce disciple, il faut en citer le nom, même si on ne peut pas en parler longuement, ce disciple avait nom Abbé Eugène Berthaud. C'est un personnage que j'ai bien connu, qui fut mon ami, et dont on pourrait parler très longuement, il mériterait lui-même une étude. Il publia un petit livre intitulé « Études de symbolisme dans le culte de la Vierge », mais il fut surtout l'ami et le disciple nécessaire auprès de Chauvet. C'est lui qui obligea Chauvet à préciser un certain nombre de points de son ouvrage. C'est lui qui trouva un éditeur. C'est lui qui mit l'édition en train. Et nous le verrons tout à l'heure, si Chauvet put voir avant de mourir le premier volume de cette œuvre qui comprend 4 tomes, eh bien, les autres volumes purent être publiés grâce à l'attention que continua de leur porter l'abbé Eugène Berthaud, dont il fallait tout de même mentionner le nom. En 1944, encore la mention du disciple, ce qui est possible pour moi, surtout intellectuellement parlant, dit Chauvet, écrivant à Bellegarde toujours, c'est de ne pouvoir échanger ici à Nantes mes idées avec quelqu'un qui me comprenne, mais j'ai fait un disciple, un garçon très intelligent et qui comprend, c'est déjà quelque chose. Mon bouquin est fini, 1er mars 1944, archi fini depuis déjà quelques beaux temps, mais je suppose que j'aurai passé dans l'éternité avant qu'il ne vienne au jour. Et mon Dieu, cela sera peut-être mieux, car je n'aurai pas à discutailler à son sujet. Car il est bien à craindre qu'il ne produise l'effet d'un pavé dans une mare à grenouilles, de bénitiers et autres. Enfin, qui vivra verra, si encore je pouvais le laisser dans des mains qui s'en puissent occuper. Ah, que ne sommes-nous près l'un de l'autre, et que j'aurai du plaisir à vous faire connaître cet enfant. 30 mai 1944, mon bouquin est en voie d'être édité. Il a reçu la bénédiction de la censure, mais seulement pour la zone sud. Pourquoi ? Mystère. L'éditeur s'occupe de faire étendre l'autorisation aux deux zones. J'attends les événements. Dès que j'aurai des nouvelles, je vous en ferai part. Enfin, à la grâce de Dieu. Et puis la dernière lettre. La dernière lettre de la correspondance, la première, vous vous rappelez, était de 1902. La dernière est de 1946, du 4 janvier, c'est-à-dire un mois avant la mort de Chauvet. Chauvet écrit une lettre qui est une sorte de petit testament amical. Bellegarde lui avait sans doute reproché de ne pas lui donner de nouvelles et Chauvet lui dit « Je suis lassé, fatigué de tout. Je ne demande que le repos. » Mais il ajoute « Je ne peux pourtant pas me plaindre, puisque le ciel me donne cette dernière joie, voire la mise en route de l'œuvre de ma vie. » Et je peux dire avec le vieux Siméon, « Nunc dimittis ». Vous pouvez me laisser aller, Seigneur. En tout cas, j'espère bien, dit Chauvet à Bellegarde, un mois avant sa mort, j'espère bien que nous nous reverrons quelque part si nous ne nous revoyons pas en ce monde. mais aussi tout de suite après, dès que j'en aurai. Je vous enverrai des bulletins de souscription pour le Bereshit, c'est-à-dire l'ésotérisme de la Genèse. Si vous pouvez en placer quelques-uns, je vous remercie d'avance. Et effectivement, le mois suivant, juste avant la mort de Chauvet, allait paraître le premier volume de l'ésotérisme de la Genèse. Cet ésotérisme de la Genèse, donc, qui va être notre livre de chevet, s'attache à traduire de manière ésotérique les 10 chapitres de la Genèse. Sur les sources de Chauvet, je ne voudrais pas m'étendre, je vous ai mentionné, bien sûr, l'occultisme, y compris Papus, Saint-Yves d'Alvèdre, Fabre d'Olivet, Paul Lacour, que mentionne Chauvet, n'ont pas eu sur lui une véritable influence, mais il a reconnu la proximité de leurs préoccupations. Et puis, il y a un document qui est extrêmement intéressant et qui m'a été très amicalement et généreusement communiqué par le petit-fils de Chauvet, Franck Villard. C'est la liste des principaux livres de la bibliothèque de Chauvet. Ce sont les livres que Chauvet avait décidé de léguer à son petit-fils, et il n'est pas très difficile, lorsqu'on regarde les noms des auteurs et les titres, de se rendre compte qu'effectivement ce sont les principaux livres de sa bibliothèque. La famille de Chauvet m'a assuré que cette bibliothèque n'était pas très importante, matériellement parlant, et il est certain que des titres tels que ceux de Fabre d'Olivet, de Platon, de Saint-Martin, de Plotin, de Marcille Ficin, des ouvrages de Kabbale, des Bibles en différentes langues, des ouvrages de sanskrit, constituaient sans aucun doute le cœur de cette bibliothèque, et que pour une étude des sources et des influences de Chauvet, il conviendrait d'analyser ces différents ouvrages dans leur rapport avec l'œuvre que nous connaissons sous le nom d'ésotérisme de la Genèse. Il y a tout de même un nom que je mentionnerai, celui de l'abbé Auguste Latouche, et qui publia au milieu du XIXe siècle des études hébraïques qui figurent dans cette liste des principaux ouvrages, je le crois, de la bibliothèque de Chauvet, et dont, sans aucun doute, Chauvet a pu s'inspirer au moins en partie. L'ésotérisme de la Genèse, donc, en quoi consiste cet ouvrage ? Il consiste en 4 tomes. Le premier a été achevé d'imprimer le 3 janvier 46. Vous voyez, je disais février, mais enfin, c'est le 3 janvier 46, c'est sans doute vers le milieu ou la fin de ce mois que Chauvet a pu en voir les premiers exemplaires, a pu en voir un exemplaire. Et le dernier tome est achevé d'imprimer en 1948, le 5 janvier 1948. Cette œuvre représente véritablement l'œuvre de la vie de Chauvet. L'abbé Berthaud a préfacé cette œuvre et lui a donné une annexe. Une annexe qui est un résumé en une trentaine de pages, extrêmement utile, de cette œuvre monumentale, même dans ses dimensions matérielles. Berthaud a signé cette préface et a signé cette annexe du nom de Saïrides, ce qui bien sûr signifie le fils spirituel et fils intellectuel de Saïr, du docteur Auguste-Édouard Chauvet. Je ne vous parlerai pas de la fortune, du sort et de cet ouvrage qu'est l'ésotérisme de la Genèse. Le premier compte-rendu qui en parut, ou il y en eut peu, fut celui de Paul Lecourt. Paul Lecourt, dans Atlantis, qui se réjouit surtout de voir que Chauvet critique la Kabbale, parce que Paul Lecourt était très opposé à tout ce qui était la tradition juive et très favorable à tout ce qui était la tradition hellénique. Il y eut la mention d'un certain Maurice Roche dans une communication qu'il fit à un congrès d'histoire littéraire tenu à Tours en 1949 sur Balzac et le philosophe inconnu. Et Maurice Roche signale ce qui est bien l'œuvre de Chauvet et affirme ce qui est mal, car c'est une erreur, que Louis-Claude de Saint-Martin avait la même méthode pour lire la Bible que celle que Chauvet a proposée. Et puis, il y aura notre ami, ce Laxonnaire dont je vous citais tout à l'heure quelques lignes, qui mourut à 89 ans en décembre 1966 et qui, avant de mourir, avait publié ou fait publier par un de ses amis nommé Joseph Berg une brochure intitulée « L'ésotérisme scientifique dans les 10 premiers chapitres de la Genèse » qui sont un résumé non seulement reconnaissant la part de Chauvet mais faisant l'éloge de Chauvet et de son œuvre. On peut dire cependant que l'œuvre de Chauvet est restée à peu près méconnue et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'était sans doute une joie et que c'était un honneur bien sûr mais que c'était aussi un privilège que de pouvoir vous entretenir de cette œuvre qui est véritablement une œuvre monumentale. Il nous reste encore quelques minutes, alors je voudrais essayer de vous montrer ce qu'on pourrait appeler la problématique de Chauvet. Je dirais que cette problématique est à deux termes. D'une part, la révélation, la tradition, et d'autre part, la lecture, le déchiffrement. L'idée de Chauvet, c'est qu'il y a une tradition, il y a une révélation primordiale, d'où découle une tradition, qui est la tradition primitive. Cette tradition a pu être adultérée, ça et là, et elle se retrouve dans sa perfection en domaine judéo-chrétien. C'est la conviction de Chauvet. Par conséquent, tous les livres sacrés, puisque c'est dans les livres sacrés que se trouve le dépôt traditionnel des différentes cultures, tous les livres sacrés font écho à la révélation primordiale, mais certains livres sont moins purs ou moins complets que d'autres. La Bible est, pour Chauvet, puisque c'est le livre sacré de la tradition judéo-chrétienne, du rameau judéo-chrétien de la tradition pleine et entière, la Bible est le livre où cette tradition se trouve dans sa forme accomplie. Cette révélation, cette tradition qui en est issue, sur quoi porte-t-elle? Sur quatre points essentiels. On trouve partout et toujours, estime Chauvet, l'affirmation qu'il existe un Dieu vivant, un Dieu trinité, un Dieu créateur. C'est le premier point. Le deuxième point, je schématise, c'est l'existence d'une âme humaine d'essence surnaturelle. Et à propos des petits hommes de la Pinède, ce roman de science-fiction avant la lettre qu'avait publié Béliard, Chauvet est heureux de pouvoir dire « Votre humanité artificielle pense, elle a l'intellect, mais ça n'est pas une véritable humanité parce qu'elle n'a pas cette étincelle divine, elle n'a pas cette âme surnaturelle qui constitue en quelque sorte le second point de la révélation primordiale et de la tradition primitive. » Le troisième point, c'est la chute. C'est le fait que l'homme n'est plus dans l'état où il fut créé. Et le quatrième, c'est la rédemption. La possibilité d'être relevé de la chute, d'être réintégré dans l'état primitif. Une rédemption par un acte direct et volontaire du Verbe. Une rédemption qui donc suppose l'incarnation. La révélation primordiale portait aussi, et tous les livres sacrés, et la Bible au premier chef l'attesteront, portait aussi, selon Chauvet, sur la nature et la division de l'univers. L'univers, selon Chauvet, comporte trois régions, trois mondes, le monde divin, les principes essentiels, le monde des lois et des puissances informantes, c'est-à-dire des puissances intermédiaires créées, ce qu'on pourrait appeler natura naturans, et enfin le monde effectué, le monde du cosmos et de l'homme, c'est-à-dire, si vous voulez, la natura naturata, c'est-à-dire le monde sensible, le monde physique, le monde matériel. Moïse, selon Chauvet, a reçu une triple initiation. Il a été initié au monde physique et à ses lois en Égypte. Il a été initié par son beau-père Jéthro à la connaissance de l'homme individuel et social. Il a été initié à Horeb et ensuite au Sinaï à la connaissance du monde divin. C'est grâce à cette triple initiation que Moïse a pu écrire ou dicter, selon Chauvet, le livre de la Genèse, mais aussi les quatre autres livres constituant le Pentateuque. Et ici, je crois qu'il faut dire une fois pour toutes que la position de Chauvet est une position résolument anti-moderniste, résolument anti-libérale, au sens où on parle de critique libérale. Vous savez que depuis le XVIIe siècle et surtout le XIXe, la critique moderne s'est efforcée de montrer que les cinq livres constituant ce qu'on appelle en hébreu la Torah, la loi, ou qu'on appelle en grec le Pentateuque, les cinq volumes, que ces livres n'avaient pas Moïse pour auteur, mais qu'ils étaient constitués par la combinaison de plusieurs sources, celles qu'on appelait la Yavis, l'Eloïs, la sacerdotale, Deutéronomis, etc. Et il y a eu la théorie des compléments, la théorie des documents, la théorie des additions, etc. Bon, c'est une critique dont il n'y a pas lieu de parler ici, sinon pour dire que Chauvet ne la reçoit absolument pas et que Chauvet considère que la révélation faite à Moïse nous est parvenue sous une forme tout à fait exacte. Non pas sous la forme même où Moïse l'écrivit ou la dicta, mais sous une forme qui fut donnée, non pas tant par Esdras, pense Chauvet, vous savez qu'Esdras, dans la tradition hébraïque, est tenu pour le restaurateur de la loi d'Israël, et que même d'ailleurs la critique moderne admet assez volontiers que c'est Esdras qui a donné la forme, ou au moins une forme très proche de celle que nous lui connaissons à la Torah ou au Pentateuque, eh bien, Chauvet estime que Esdras eut sans doute une part à cette mise en forme, mais que ce fut Daniel qui rédigea le texte que nous avons maintenant en hébreu, Kari. Et il le rédigea peut-être en utilisant Esdras comme secrétaire, c'est l'une des hypothèses de Chauvet, pour nous c'est peu important. Ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'il le rédigea, selon Chauvet, dans une rédaction à double sens. Autrement dit, Moïse et Daniel ensuite, qui utilisa l'écriture de l'hébreu carré, que vous voyez ici, s'ingénièrent à choisir des mots dont les racines seraient constituées par des lettres qui prononcées formeraient, qui en tant que lettres, prononcées donc formeraient des mots dont la suite constituerait un récit suivi, une histoire, c'est-à-dire le texte exotérique de la Bible. Mais ces mêmes mots étaient choisis aussi en fonction de la signification idéographique des lettres, et cette signification, pourvu qu'on arrivât à la déchiffrer, et Chauvet a retrouvé la clé de ce déchiffrement, cette signification, c'est précisément l'ésotérisme de la Genèse. Je viens de prononcer le mot idéographique. C'est le mot clé, et si nous devons terminer bientôt, j'aimerais que nous terminions sur cette idée, car c'est l'idée qui va nous guider tout au cours des prochaines réunions. Pour Chauvet, en effet, il y a une valeur alphabétique des lettres de l'alphabet hébreu, et cette valeur alphabétique a permis de composer un texte exotérique et nous permet de lire un texte exotérique. Mais il y a aussi une valeur idéographique. Et je dis bien idéographique et non pas hiéroglyphique. C'est-à-dire que ce qui intéresse Chauvet, ça n'est pas la valeur hiéroglyphique. Il reconnaît qu'il y a une valeur hiéroglyphique des lettres hébraïques. Mais ce qui l'intéresse, c'est la valeur idéographique. C'est pourquoi vous voyez ici qu'il ne s'agit pas de parler de la signification attachée à l'image que représente la lettre, mais il s'agit d'idées qui parfois sont en rapport avec l'image, avec l'hiéroglyphe, et parfois sont sans rapport avec cette image ou avec cet hiéroglyphe. C'est l'idée qui importe et non pas la signification hiéroglyphique. C'est l'idéographie et ça n'est pas le caractère hiéroglyphique. Cela, je crois, est absolument fondamental. Je vais conclure. Avant que nous l'abordions, je voulais seulement vous donner une idée de qui était Chauvet et peut-être une idée de la manière dont nous allons procéder pour lire la Genèse. Vous l'avez bien compris, il va s'agir d'abord de saisir la liaison entre l'être et concept associé, et ensuite d'appliquer certaines règles, d'abord d'apprendre ces règles, je vous les exposerai la prochaine fois, qui nous permettront de déceler dans les mots, dans la succession des mots qui constituent le texte des 10 premiers chapitres de la Genèse, de déceler quel est le sens ésotérique. J'ajoute tout de suite que, contrairement à Fabre d'Olivet qui avait voulu inventer une nouvelle grammaire hébraïque, Chauvet estime qu'il n'est pas nécessaire d'inventer une nouvelle grammaire hébraïque. Ce qui est nouveau, c'est la signification idéographique des lettres, ça n'est pas la morphologie ni la syntaxe. La grammaire hébraïque qu'utilise Chauvet est la grammaire classique. Et je vous disais tout à l'heure que c'était la matière, mais en même temps la matière symbolique, ces idées fondamentales, mais non pas exclusives, associées aux différentes lettres, aux différentes 22 lettres de l'alphabet hébreu, et que ce tableau représentant le premier verset du premier chapitre de la Genèse. Alors là, je vais, si vous le voulez, anticiper sur ce que nous allons essayer de découvrir par la suite. Je vous propose la prochaine fois d'étudier cette méthode de Chauvet, d'étudier cet alphabet en 22 lettres avec la valeur idéographique de chacune, et d'étudier les règles qui doivent être appliquées donc pour le déchiffrement de ces 10 premiers chapitres, et puis ensuite nous pourrons passer au déchiffrement du premier verset. Dès maintenant, je voudrais, pour vous montrer dans quelle direction nous nous orientons, et ce sera le côté symbolique de la matière qui est exposé par ces deux tableaux, je vous dirai tout de suite ce qui ressort de ce premier verset du premier chapitre selon Chauvet. Il en ressort cette idée de départ, que l'on confond sous le nom de création deux actes différents qui sont d'une part la création, d'autre part l'effectuation. La création consiste pour Dieu et dans le Verbe, et dès le commencement à créer trois principes. Ce premier principe s'appellera les Elohim. Le deuxième, ce sera les cieux, Shamayim. Les Elohim sont les essences principes, et le deuxième, ce sont les lois célestes et les formes. Et puis ensuite, ce qu'on appelle exotériquement la Terre, c'est-à-dire l'univers sensible matériel. Trois principes, donc, créés véritablement par Dieu, trois mondes. Et puis, ensuite, a lieu l'effectuation. L'effectuation, c'est-à-dire que ces principes auxquels Dieu a communiqué son plan créateur, ces Elohim, et puis les principes, et puis les substances que ces Elohim utiliseront, ils les utiliseront avec le secours d'Adam, et puis avec le secours du serpent de la Genèse, et puis de Noé qui remplacera le serpent de la Genèse lorsqu'il sera maudit et lorsqu'il sera banni. Eh bien, ces principes effectueront en quelque sorte l'univers sensible. Et c'est cette effectuation qui, après la création d'abord racontée, d'abord contenue quant au récit ésotériquement lu dans le début de la Genèse, cette effectuation sera ensuite racontée sous le couvert du récit exotérique du déluge. Et ainsi, après la création, aura lieu l'effectuation. Ce que je viens de vous dire vous semble probablement très obscur. J'ai seulement voulu vous donner quelques termes et une simple orientation pour vous dire ce qui est véritablement la conclusion de toute la recherche de Chauvet, dont j'ai seulement voulu vous présenter ce soir, et très vite, beaucoup trop vite à mon gré, car on aurait pu parler de Chauvet très longtemps, et on aurait pu parler aussi, bien sûr, de l'alphabet hébreu, ou de la méthode, beaucoup plus longuement, mais ça, nous pourrons le faire la prochaine fois. J'ai seulement voulu vous présenter donc l'auteur, vous dire un mot de l'ouvrage, vous suggérer sa méthode, et vous indiquer dans quelle direction il s'orientait, et comment sa problématique, comme je le disais, comporte en somme deux termes, d'une part la révélation, d'autre part le déchiffrement, et si le déchiffrement est possible, c'est parce qu'il y a une tradition issue de la révélation primordiale, et le déchiffrement aboutit à nous faire constater l'existence de la tradition judéo-chrétienne, et non seulement l'existence de la tradition judéo-chrétienne, mais la perfection de la tradition judéo-chrétienne dans les 10 premiers chapitres de la Genèse, pourvu, et ce fut l'œuvre du docteur Chauvet que nous permettre d'y arriver, pourvu que l'on parvienne à lire ésotériquement la Genèse, pourvu que l'on arrive à l'ésotérisme de la Genèse. On m'a demandé de terminer à 9h moins le quart, je crois qu'il est exactement 9h moins le quart, peut-être avons-nous quand même quelques minutes de grâce, s'il y a un ou deux renseignements que vous pourriez souhaiter, que je pourrais vous donner. Je vous demanderai peut-être que ça touche d'aussi près que possible au sujet qu'on a abordé et que ça n'oblige pas à de trop longs développements. Est-ce que vous avez une question, monsieur?
Vous n'avez pas parlé d'un des amis de Chauvet qui était monsieur Joseph Ebeling?
Ah oui, j'ai pas parlé d'Ebeling parce que je suis pas sûr que c'était un ami de Chauvet. Vous êtes sûr que c'était un ami?
Oui, d'ailleurs, il a écrit un ouvrage qui est pratiquement introuvable.
Oui.
Et sur l'ésotérisme, enfin, bon. Sur l'Apocalypse, sur l'Apocalypse, avec un système de clés semblable à celui de Chauvet.
Oui.
Et un autre sur, donc je crois qu'il explique un passage de la Bible.
Voilà. Ah, de la Genèse. Ah oui, il s'est efforcé, lui aussi, présenter ce qu'il appelle le grand mystère dévoilé, n'est-ce pas? Et il trouve dans la Bible, mais alors, il procède, c'est pourquoi je ne pense pas qu'il était lié avec Chauvet. En tout cas, sa méthode est tout à fait différente, et les résultats auxquels il parvient...
Il faisait partie du groupe, du petit groupe avec Bessin, avec... comment il s'appelle
Le Sartre. Oui. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, Ebeling. Pas à ma connaissance. Non, si vous voulez, il fait partie, et j'avais dit que je n'en parlais pas, de quelques-uns. Il y a eu Abbe aussi. Un petit peu plus tard, qui ont essayé aussi de lire d'une manière ésotérique la Genèse. Mais Ebeling, qui me paraît avoir été très fantaisiste, en l'occurrence, trouve des formules chimiques.
Exactement.
Il trouve des formules chimiques dans la Bible. Ça me paraît vraiment très très peu sérieux, mais autant que je sache, il n'a pas eu de liaison amicale, ni même, je pense, de rapport avec Chauvet.
Parce que le départ d'Ebeling est bon, mais après il part en partant d'Hébreu.
Oui.
Il est très bon au départ et il se perd dans une histoire de formules chimiques.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
On se souvient d'un explosif, je crois.
Oui, c'est ça. C'est ça. Je crois que c'était le fulminate de potassium.
Oui, c'est ça, fulminate de potassium.
Je crois. Bon, je vous avoue que Ebeling n'est pas mon livre de chevet, mais autant que je me souvienne, c'était le fulminate de potassium dont il trouve la formule dans la Bible. Est-ce que vous avez une idée? Nous a demandé de ne pas dépasser. Alors, si vous le voulez bien, je vous propose que nous nous retrouvions le mercredi 4 février. Et alors là, nous pourrons envisager le graphisme ésotérique, c'est-à-dire l'alphabet hébreu, comment déchiffrer les mots hébreux, à la suite, mais au-delà de Fabre d'Olivet et de Saint-Yves d'Alvèvre, au-delà bien sûr de Ebeling aussi, que vous citiez tout à l'heure, monsieur, je parlais de Fabre d'Olivet et de Saint-Yves d'Alvèvre dans la mesure où Chauvel lui-même les avait mentionnés, et dans la mesure où Saint-Yves d'Alvèvre a été véritablement pour lui un maître. Enfin, quoique, vous le verrez, sa méthode soit très différente, et les résultats auxquels il parvient sont très différents. On n'aura pas, je crois, la possibilité, enfin si vous le souhaitez, on peut le faire, mais de comparer les traductions, je ne dis pas de Fabre d'Olivet, mais de Saint-Yves d'Alvèvre avec celle de Chauvet. Ce sera peut-être un peu difficile, mais enfin, c'est un travail qu'en d'autres circonstances, on peut très bien entreprendre. Chauvet dira, enfin, je ne vais pas m'engager dans cette voie, mais qui nous a très entendu, Chauvet dira que c'est plutôt une allégorie. Oui. Pour lui, ça n'est pas de l'ésotérisme, finalement, c'est de l'allégorisme. Je crois qu'il a tout à fait raison. Sauf en ce qui concerne le premier verset. Chauvet rend hommage à Saint-Yves d'avoir trouvé et d'avoir donné du premier verset une traduction, ça on pourra peut-être la citer.
La correspondance d'ailleurs avec l'évangile de Jean.
Oui. Alors donc, je vous remercie, je vous propose, si vous le voulez, que nous nous penchions sur le graphisme ésotérique le mercredi 4 février à 19h.